This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazz en l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, 1949, un événement va se produire qui a encore des conséquences aujourd'hui puisque c'est l'année que l'abbé Pierre choisit pour fonder sa première communauté Emmaüs à Neuilly-Plaisance. Cette communauté vise à redonner par le travail une place dans la société aux exclus. Par la suite, le mouvement Emmaüs se développera assez rapidement et en France, dans le monde même, et notamment après l'hiver 54, date à laquelle l'abbé Pierre fait son grand appel en faveur des déshérités et surtout des sans-abri. Voici ce que, 50 ans plus tard, en 1999, la télévision française, Antenne 2 en l'occurrence, disait dans un reportage des Compagnons d'Emmaüs, un reportage réalisé par Patricia Charnelet.
Je sais ce que c'est que la faim, j'ai couché dehors, j'ai eu faim, j'ai été sale. Et ici maintenant je suis propre, j'ai plus faim.
C'est parce qu'un homme, l'abbé Pierre, a un jour dit non à la misère qu'a commencé l'aventure d'Emmaüs en 1949. Il a réuni autour de lui les plus pauvres, ceux qu'il a appelés les chiffonniers puis les compagnons. Leur mission, récupérer dans les décharges, dans les poubelles, les objets jetés par les autres, les réparer et les vendre. Aujourd'hui, à Neuilly-Plaisance, c'est toujours ce travail de récupération et de remise en état qui structure la vie de 45 compagnons.
Avant ça, j'étais un petit peu clochard, donc c'est un petit peu différent comme vie, hein, légèrement. Et quand je suis arrivé ici, c'est que j'avais envie de bosser, gagner mon pain, sentir utile à quelque chose.
Ces hommes restent le temps qu'ils veulent à Emmaüs. Ils sont logés, nourris, ils perçoivent une allocation mensuelle autour de 1000 francs. En échange, ils doivent participer aux activités et ils ont beaucoup de clients. 5 jours par semaine, c'est la vente des objets réparés. Elle a un énorme succès. L'argent gagné fait vivre les compagnons et sert à toutes les autres actions de solidarité d'Emmaüs en France et dans le monde. Un système d'économie solidaire dont la priorité est le respect de l'homme.
Il y a des projets qui émergent et puis il y a le sentiment de compter pour tous ceux de la communauté, de compter pour des clients avec lesquels on a des relations, pour les gens du quartier, de se rendre compte qu'on a sa place et là, il y a à nouveau des envies personnelles et puis on retrouve la force de les réaliser pour nous c'est le meilleur cadeau quoi.
L'histoire des compagnons est souvent très douloureuse, pourtant ils sont nombreux à retrouver ici quelques raisons d'espérer.
J'avais un bon métier, je gagnais bien ma vie, mais puis à 40 ans, retrouver du boulot, c'était pas évident du tout.
Et c'est comment la vie ici?
Bien.
Pourquoi?
Je fais un boulot qui me plaît, je m'accorde avec tout le monde.
Si vous avez le sentiment d'avoir retrouvé votre dignité d'homme?
Ah oui, ah oui, complètement. Ah oui. J'ai beaucoup d'amis en ville, j'ai des amis ici, ah oui. Je peux passer partout la tête haute ici. On aime bien ici, à Neuilly-Plaisance, on aime bien l'image.
Il y a en France 4000 compagnons d'Emmaüs, preuve que la mobilisation contre l'exclusion est toujours aussi nécessaire.
Alors en cette période de reconstruction, de réunification de la France qui a eu pendant plusieurs années, à l'occasion de cette Deuxième Guerre mondiale, l'occasion de se fracturer, de se diviser, eh bien on parle donc essentiellement de reconstruction de logement. Et le paradoxe, c'est que c'est cette même année, en 1949 donc, que Le Corbusier va commencer à réaliser l'un de ses projets les plus importants, en l'occurrence la Cité radieuse à Marseille. Alors je dis c'est paradoxal parce que c'est un projet d'architecte, c'est un projet qui est né bien avant 1949, bien sûr, et donc on peut penser que Le Corbusier a imaginé ce projet durant les années d'occupation. Alors, avec le temps, aujourd'hui, la figure de Le Corbusier est un peu, sulfureuse. C'est-à-dire que des gens se sont penchés sur sa vie, sur son existence, sa relation avec la société. Et il s'avère aujourd'hui que ce monsieur a très largement collaboré pendant la guerre, qu'il a su dissimuler probablement ces épisodes de son existence, et que même dans sa façon de penser, il avait, un certain nombre d'idéaux qui n'étaient pas très conformes à l'esprit du Conseil national de la Résistance qui a succédé à la période d'occupation. Mais toujours est-il que peut-être que les puissants ou les gens qui ont pignon sur rue ont plus de facilité à se resituer dans la société nouvelle qui commence à naître en 1949. Mais il va donc parvenir à réaliser cet édifice qui est une sorte de village vertical avec ses rues, ses commerces. Et on a une actualité toute récente puisque durant l'été dernier et une partie de l'automne, un jeune galeriste a organisé une exposition de Daniel Buren sur le toit de la cité radieuse, redonnant une sorte de deuxième jeunesse un peu à ce bâtiment que les Marseillais avaient pour habitude d'appeler la maison du Fada. Alors, ceux qui s'intéressent à l'architecture à Le Corbusier devraient savoir, ou en tout cas je les informe, que plusieurs ouvrages paraissent ces jours-ci sur Le Corbusier et donc font une sorte de bilan de l'action très controversée de cet architecte dont la notoriété est évidemment mondiale. Alors voici ce que l'on disait de la construction de ce projet en 1949.
Et en France, on est en passe de terminer la construction du bloc d'habitation sur pilotis qui donnera à un coin de Marseille un aspect insolite de modernisme intégral. C'est la première fois que le grand architecte Le Corbusier réalise en France son rêve d'habitat rationnel. Dans ce building, haut de 17 étages, les locataires trouveront tout ce qui est indispensable à la vie de chaque jour, depuis le café du matin jusqu'au cinéma du soir. Le Corbusier à Marseille, c'est peut-être la première pierre de la cité de l'avenir.
Alors on voit aussi que l'innovation technologique est évidemment au cœur des préoccupations des Français et de leur gouvernement. Et c'est ainsi que le train en particulier est le vecteur de ce renouveau. C'est ainsi que le 27 mai 1949, le train Paris-Bordeaux bat le record d'Europe de vitesse moyenne avec, tenez-vous bien, 131 km à l'heure. Évidemment qu'à l'heure du TGV, ça fait sourire. Et puis la compétition continue, puisque le 14 octobre, la nouvelle locomotive, la CC7101, relie Tours à Paris en 2 heures, pas plus de 2 heures. Fantastique essor technologique qui va aussi se manifester dans le secteur du pétrole. Et on a un bel exemple ici, dans notre région, de cette innovation technologique en 1949, puisque les raffineries de Frontignan vont faire l'objet d'un projet assez formidable pour l'époque, puisqu'il s'agit d'un pipeline immergé en mer, là où les pétroliers pourront décharger leur cargaison et être stockés dans les fameuses cuves que l'on voit lorsqu'on se rend de Montpellier à Sète et que sur la droite de la voie de chemin de fer ou de la route d'ailleurs, on voit les cuves étincelantes de l'ancienne société mobile qui exploitait la raffinerie auparavant, bon, dont une bonne partie aujourd'hui n'existe plus. Et sachez simplement que les terrains qui sont entre la route ou la voie de chemin de fer et la raffinerie, eh bien c'était des étangs, des morceaux d'étangs qui ont été comblés pour réaliser et la raffinerie et la partie territoriale de ce fameux pipeline dont un reportage d'archives de l'époque nous livre les secrets.
Sur la côte méditerranéenne de la France, un point sur la carte, Frontignan. C'est là que fonctionne depuis un demi-siècle une des raffineries les plus anciennes d'Europe.
à son expansion un seul obstacle, sa situation près du port de Sète, qui ne permet pas actuellement de recevoir des navires d'un tirant d'eau supérieur à 8 mètres. Le problème était donc de permettre aux lourds pétroliers modernes de décharger leur cargaison, indispensable au traitement des 1 million de tonnes annuelles envisagées pour la raffinerie de Frontignan, par 15 mètres de fond. Un système de sea line, le premier en Europe, a donc été étudié pour permettre de décharger au large les plus gros bâtiments. Le plan en est simple. À terre, deux tronçons de pipeline sont préparés côte à côte. L'un est glissé en haute mer tandis que l'autre reste immobile. Puis les deux éléments se raccordent en un seul et la manœuvre continue jusqu'à ce qu'on atteigne le point prévu. Il suffira alors d'installer au large les flexibles de déchargement des pétroliers et de raccorder la conduite sous-marine au réservoir de stockage par une conduite terrestre. Une telle opération paraît élémentaire quand les ressources du dessin animé cinématographique en tracent le plan aux yeux des spectateurs. La réalisation à Frontignan, bien que menée en un temps record, fut moins aisée. Il a d'abord fallu assurer la sécurité de 2 500 000 mètres carrés de surface maritime en faisant sauter les quelques mines restant de l'occupation. Il a fallu ensuite, après avoir étudié l'orientation et la vitesse des courants, s'assurer de la qualité des terrains, procéder à des études extrêmement précises tant sur terre qu'en mer, avant de pouvoir délimiter le tracé du sea line, arrêter son point d'aboutissement et les positions de mouillage éventuelles des pétroliers. L'ensemble de ces études préliminaires devait conduire les ingénieurs chargés de la réalisation des travaux à fixer un tracé aboutissant en mer à environ 2 700 km de la côte. Ces travaux préliminaires achevés, la première phase active allait consister en l'installation au large du point d'amarrage des pétroliers. Cette base devait être constituée de trois bouées de 3,50 m de diamètre et 1,70 m de haut, reliées par 180 mètres de chaîne d'amarrage en fil de 60 mm pesant plus de 25 tonnes à deux groupes de deux corps morts pesant 10 tonnes chacun. Des chalands devaient déposer ces corps morts et leurs chaînes au point indiqué, se servant pour freiner la descente, d'amarres en chanvre se brisant au fur et à mesure de l'immersion. Un système de bouées signalisatrices était enfin mis en place. Cependant, au cours des études, on s'aperçut très vite qu'il faudrait renoncer à construire à terre le sea line d'un seul bloc, le recul dont on pouvait disposer se révélant insuffisant. On en vint donc à décider la construction de deux éléments parallèles qui se raccorderaient en un point donné au cours de l'opération de mise à flot. Pour cela, on dut aménager à travers les étangs de la région une véritable route de 1530 mètres de longueur sur 6 de large, nécessitant 20 000 mètres cubes de remblai. Sur cette plateforme, une voie ferrée complète fut installée, avant que ne soient déposés les 200 chariots qui guideront les tubes dans leur lente descente vers la mer. Les éléments constitutifs du sea line furent approvisionnés par longueur de 10 mètres. Il s'agit de tubes en acier de 300 mm de diamètre et 12,5 mm d'épaisseur.
Voilà, ainsi se matérialisa le fameux sea line qui fonctionne toujours d'ailleurs, alors avec des capacités de stockage moins importantes, je pense, mais il fonctionne toujours au large de Frontignan. Et c'est ainsi qu'en vous déplaçant, eh bien, quelquefois vous voyez dans le lointain, dans le proche lointain, on va dire, des pétroliers qui sont là, qui attendent, qui ont l'air de stationner. En réalité, ils ne stationnent pas, ils vident simplement leur cargaison au large de Frontignan. Voilà pour la petite histoire, 1949 dans notre région tout particulièrement. Alors en matière de jazz, nous avons évoqué déjà la personnalité de Dizzy Gillespie qui commence en 1949 à être... avoir une notoriété suffisante, eh bien, parmi les quatre mousquetaires, pourrait-on dire, de la trompette que nous avions défini dans le précédent épisode, eh bien, le deuxième de ces quatre mousquetaires, c'est Fats Navarro. Et je vous propose d'écouter un enregistrement. Fats Navarro, qui est le bopper, qui revendique pour le bebop plus d'harmonie, plus d'écriture, plus de sophistication. Et bien là, il interprète un thème de Don Lamphere qui s'appelle Stop. Et il est accompagné par le compositeur au piano, au saxophone ténor, pardon, par Oleg au piano, Tommy Potter à la basse, Mac Church à la batterie. Et c'était enregistré le 20 septembre 1949 à New York. Eh bien, cette année-là, c'est aussi l'année que choisit Norman Granz pour créer son Jazz at the Philharmonic, le JATP, comme on le dit de manière réduite. Et Norman Granz, donc, réunit, c'est le concept de ses concerts, réunit la fine fleur du jazz de l'année pour produire à Carnegie Hall le haut lieu de la musique philharmonique, et bien pour produire ce qu'il y a de mieux en matière de jazz. Et donc, cette année-là, donc, Norman Granz réunit Autour de Fats Navarro, il réunit Hank Jones au piano, Ray Brown à la basse et Chelly Main à la batterie. Et c'est « The Things We Did Last Summer ». Fats Navarro, mélodiste incomparable, appuyé d'une technique éblouissante, virtuose, mais qui n'en abuse jamais et qui joue toujours la note juste, simplement. Malheureusement, on peut déplorer sa disparition trop tôt, qui ne lui a pas permis de faire la carrière auquel il semblait être promis, évidemment. Alors, le 8 août 1949, Fats Navarro rentre en studio. Alors, il entre avec une formation, il va passer 2 jours, 8 et 9 août, à enregistrer avec Sonny Rollins au saxophone ténor, Bud Powell au piano, pianiste avec lequel il enregistrera beaucoup, Tommy Potter à la contrebasse et le fameux Roy Haynes à la batterie. Ils vont enregistrer de nombreux morceaux. On va écouter 2 morceaux. Le premier s'intitule « Whale », c'est une composition de Bud Powell. Et le deuxième s'intitule « Bouncing with Bud », mais c'est la deuxième prise de cet enregistrement qui a été retenue pour être diffusée. Bouncing, alors d'abord Whale et Bouncing with Bud.
Thank you.
Le quartet de Fats Navarro en compagnie donc de Bud Powell au piano, que l'on entendait longuement ici et dont on voit la complicité entre le trompette et le pianiste, Tommy Potter à la basse et Roy Haynes à la batterie. Parmi les trompettes d'avenir que nous évoquons dans cette année 1947, nous avons déjà vu Dizzy Gillespie, Fats Navarro, il nous reste Kenny Dorham et Miles Davis, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.